Bonjour et bienvenue dans l'émission Écoforum sur Radio Galère sur la fréquence 88.4. L'émission qui donne la parole aux acteurs de l'environnement et de la solidarité. Nous sommes en direct jusqu'à 20h, mais vous pourrez nous réécouter demain dans l'émission du jeudi 17 février à 9h. On est également en replay sur le site radiogalère.org. Nous accueillons ce soir Natacha de l'association Un déchet par jour. Et nous sommes en direct donc avec Marin et moi-même, donc Jade.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bon, bah écoute, Natacha, merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Donc, pour résumer rapidement, mais après, Natacha, je vais te laisser introduire. Donc, Natacha, tu étais stagiaire au début, donc lors de ton master en communication développement durable auprès de l'association. Et puis après, tu es devenue bénévole et depuis aujourd'hui, tu es salariée. Donc, finalement, tu connais l'association depuis 2017, c'est ça?
C'est ça.
Bon, je vais te laisser introduire un peu et nous parler de ton parcours.
Alors, pour moi, l'environnement, c'est une grande histoire d'amour depuis petite, puisque au primaire, j'ai eu un professeur qui nous a sensibilisés en nous faisant planter des arbres, en nous faisant faire des randonnées durables. C'était peut-être en 98 déjà à l'époque. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée. Quand je suis rentrée à la fac, je me vois en train de traquer tous mes collègues pour qu'ils ne jettent pas leurs mégots par terre, qu'ils aillent à la poubelle qui était finalement à 30 cm d'eux. Et comme toute personne jeune, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai pu voir en fait l'association Un déchet par jour qui a été fondée par Edmond Platt, un Anglais fou qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux puisqu'il a proposé en fait de ramasser un déchet par jour, de publier le geste en fait sur les réseaux sociaux, de taguer ses amis pour qu'ils fassent la même chose. Ensuite, il a organisé un grand ramassage à Notre-Dame de la Garde. Là où ça a fait un énorme buzz et je me suis dit je veux faire ça moi aussi dans ma vie. Donc dans le cadre de mes études pour mon master 1, j'ai postulé dans l'association et j'ai été acceptée. Et du coup de là je ne suis plus jamais partie, donc de stagiaire je suis passée bénévole en communication. Et depuis aujourd'hui je suis salariée, mais du coup pour tout ce qui est événementiel, communication, j'élargis un peu les champs.
Et alors est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que fait Un déchet par jour.
Un déchet par jour. Donc l'association, donc elle incite au geste de ramasser, sous-entendu arrêtez de jeter vos déchets par terre. À côté, elle fait de la sensibilisation dans les écoles, dans les entreprises, et elle organise des grands ramassages éco-citoyens, en plus de parfois coordonner des événements comme le World Cleanup Day.
Sur Marseille donc.
Sur Marseille, ça nous est arrivé d'aller dans d'autres villes, mais notre secteur c'est Marseille.
Donc c'est une association basée à Marseille, créée à Marseille.
C'est ça.
Et tu es de Marseille par un Anglais. Ouais.
Oui. Qu'est-ce qu'il a amené ici
Le concept, ouais. Le concept est né à Leeds et est arrivé à Marseille. Ok. En réalité.
Mais lui, il est à Marseille aussi?
Alors maintenant, il n'est plus à Marseille, mais il y a vécu, je crois, un truc comme 8 ans.
Ok.
Il partait en voyage en Italie, je ne sais pas quoi faire. Et puis il s'est arrêté à Marseille, il a dit c'est la ville sur laquelle je veux vivre. Et il est resté là pendant 8 ans, il a développé l'association. Et puis un jour il en a eu marre, il a voulu sensibiliser ailleurs. Du coup ben, il part voyager avec son camion et son petit chien Tartine. Et, et du coup il fait des marches pour sensibiliser, enfin des marches où il ramasse des déchets, notamment les masques. En 2020 il a fait Marseille-Paris à pied où il a ramassé plus de 1500 masques sur son passage pour sensibiliser en fait sur ce nouveau déchet qui est un fléau puisque finalement c'est du plastique. Et il a écrit un livre aussi puisque en 2017 il a fait le tour de la France en fait pour rencontrer simplement les citoyens et les sensibiliser en fait sur le geste de jeter que c'est pas bien. Et il en a écrit un livre qui s'appelle L'Anglais qui voulait nettoyer la France. Est-ce que j'ai répondu à la question?
Très très bien.
Ouais, non, c'est incroyable. Ça me fait beaucoup rire. En plus, il y a toujours des petites rivalités entre les Français et les Anglais. Et là, il arrive à subtilement en parler tout en mettant en honneur le pays, quoi.
C'est ça. Mais je pense qu'il connaît mieux la France que n'importe quel Français.
Surtout s'il fait des balades à pied. Faut le faire Marseille-Paris à pied. Et donc, du coup, il est toujours en lien avec l'association. Vous le retrouvez de temps en temps sur des grands événements ou au travers de réunions?
Alors, il vient sur certains de nos événements, notamment celui qui a eu dimanche, donc le Loft à Bonne-Mère, où nous avons ramassé 836 kilos de déchets en 3 heures avec 1200 participants. Et ça, c'était assez fou. Il nous appelle souvent, d'ailleurs. pour nous dire c'est bien ce que vous faites ou c'est mal ce que vous faites. Enfin, il est toujours là, c'est le pionnier en fait. Donc du coup, il veille sur nous.
Surtout qu'il a l'air assez bon, vu ce que tu m'expliques, pour vraiment réussir à fédérer une espèce de communauté et en faire un événement. Parce qu'on peut très bien se dire, aller passer son dimanche matin à aller nettoyer une plage, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus sexy sur le papier. Mais si jamais derrière, c'est un déchet par jour, c'est les réseaux sociaux, c'est un côté un peu loufoque, ça rend le challenge plus attrayant. J'imagine que ça doit vous permettre ensuite d'embarquer pas mal de monde.
Bien sûr, avec une personne comme Eddy, avec son franc-parler. Du coup, tout le monde l'aime pour son franc-parler, puisque il dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Il reste pas focalisé en fait sur comment on pourrait prendre la métropole ou la mairie, ce qu'il dit. Il s'en fout en fait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'événement et l'environnement et sauver en fait la planète via des actions concrètes en fait. Et du coup, il arrive à fédérer de cette manière-là. Et nous, on essaie de fédérer de la même manière. Bon, peut-être de manière un peu plus posée parce qu'on n'est pas tous édits.
Mais je suis désolée, j'ai des problèmes dans la gorge. Ce que je voulais savoir justement, c'est que comment il a pu, enfin, je sais pas si tu le sais, mais comment il a réussi à s'intégrer finalement en posant cette grosse problématique marseillaise qu'on vit au jour le jour là. Comment il a réussi à s'intégrer, sachant qu'il n'était pas forcément marseillais et qu'il vient avec une association comme ça. C'est étonnant de voir l'ampleur de l'association aujourd'hui, quoi.
Il arrive à très bien s'entourer, parce qu'il faut savoir que Eddy, avant d'être éco-responsable, c'était un gros fêtard pollueur. Donc comme tout gros fêtard pollueur, il a eu la chance de connaître énormément de personnes, notamment en termes de médias. Donc quand il a lancé le mouvement de un déchet par jour, il a fait jouer en fait ses relations pour pouvoir être relayé. Et le fait que ça soit un personnage assez atypique, et notamment anglais, et que ça soit un anglais qui propose de nettoyer une ville, en fait, ça a plu, puisque c'est un, comment on appelle ça en journalisme, une figure atypique.
Et donc, un bon client.
Voilà, c'est ça, un bon client. Donc du coup, ça a été relayé et ça a fait le buzz. Et de buzz en buzz, finalement, toujours en allant plus loin, il a réussi à générer une belle communauté.
Mmh. Et là, on parle d'Eddy depuis tout à l'heure, mais on a aussi Natacha qui est devant nous. Toi, comment est-ce que tu... Enfin, je pense que c'est intéressant quand on est un auditeur ou une auditrice, c'est qu'on est là, on écoute, on se dit OK, et le fait de pouvoir se projeter, tu vois, un peu dans ce que tu fais. Et donc, visiblement, tu as commencé avec tes études, puis tu es rentré en stage, puis pendant des années, tu as été bénévole, je pense, ensuite, après le stage.
C'est ça.
Et maintenant, tu y travailles depuis aujourd'hui. Mais ça peut être une source d'inspiration. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le chemin, le parcours ?
Alors, c'est beaucoup de détermination, finalement. C'est toujours se surpasser, toujours vouloir aller au-delà. Moi, vraiment, l'environnement, c'est ma passion. Depuis que je suis rentrée en fait dans master, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je le savais avant, mais je ne savais pas comment le construire, parce qu'avant de faire la communication, je faisais de la psychologie. Je voulais allier la psychologie à l'environnement, mais je n'arrivais pas à trouver la manière de le faire. C'est pour ça que je suis partie en fait en communication. Après, je suis tombée sur une bonne association qui m'a beaucoup appris comment parler, comment fédérer, comment... Enfin, j'ai appris de mes erreurs aussi, parce que j'en ai fait, et je ne me suis jamais découragée, en fait. Malgré les critiques qu'on a pu me faire, je me suis toujours tenue, en fait, à mon poste. Et ce qui est dur en tant que bénévole, c'est de se dire, j'ai pas de rémunération pour faire ce que je fais, j'ai un travail à côté, mais il faut que je donne quand même du temps à l'association, et est-ce que je me consacre que à mon travail, ou est-ce que je sépare mon temps entre les deux? Et moi, j'ai décidé de séparer mon temps entre les deux, parce que, clairement, le travail que j'ai fait après mes études, c'était du harcèlement téléphonique, et vraiment, c'est pas du tout passionnant, et j'avais pas envie de me cantonner que dans ça. Donc du coup, je me suis vraiment donnée à fond à côté sur l'association. J'ai continué à organiser d'événements, à faire la communication, à rester régulière dans ce que je faisais. Du coup, l'association n'a pas eu besoin en fait de compléter ce que je faisais par quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait ma place, j'ai montré que j'étais plus que déterminée. Et quand il y a eu la possibilité de m'embaucher, ils n'ont pas cherché ailleurs, c'est moi qu'ils ont embauché.
Mais en même temps, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher quelqu'un d'autre alors que tu es un peu l'âme de leur projet ?
Ça, oui, qu'il faut le dire.
Est-ce que vous êtes combien au total dans l'équipe, dans la structure ?
Alors, on est deux salariés. On a notre président, donc c'est plus Eddy, du coup c'est Alexandre Mounier qui a récupéré le flambeau en 2018 quand Ed est parti. On a un prestataire relations presse qui est Adrien Piquera qui est là. Ensuite on a trois bénévoles qui sont constants avec nous, du coup qui nous aident à organiser tout ce qui est événements, communication et là où on a besoin, coordination. Et après nous avons des bénévoles de manière un peu plus large qui viennent avec nous sur les événements pour nous aider sur les tenues de stand. Enfin, ce qu'il y a à faire en fait sur les événements, tout simplement, nos tenues de stand, sensibilisation, adhésion. D'ailleurs, si vous voulez adhérer à un déchet par jour, n'hésitez pas, c'est sur notre site internet.
Ça, on redonnera les coordonnées à la toute fin de l'émission.
Ok.
Essaye de se passer le mot. Déjà, je te remercie pour ce témoignage parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, je pense. Enfin, on est bénévole aussi avec Marin et c'est vrai que c'est ce qu'on se disait. Ce n'est pas toujours évident d'allier son activité professionnelle et son engagement dans une association. Et c'est vrai que toi, tu as tenu bon. Tu es resté longtemps dans une association en tant que bénévole. Donc, ça montre aussi que voilà, des fois, on a des opportunités qui peuvent être plus rapides, d'autres moins rapides. C'est des parcours de vie, mais... Donc comme quoi, de rester et de s'engager à fond, ça paye et c'est chouette. Et on te félicite pour ta promotion d'aujourd'hui.
Merci, je suis trop contente en vrai.
Et du coup, alors qu'est-ce que ça change? Il y a une grande différence dans tes missions entre ce que tu faisais en tant que bénévole et aujourd'hui, ta mission de responsable, j'avais noté, communication.
Événementiel. Ce qui change, c'est... Alors, avant, en tant que bénévole, du coup, j'étais forcément appuyée par les personnes qui étaient en permanence sur l'association. Je vais prendre l'exemple de Notre-Dame de la Garde, qui est le plus gros événement que j'organise depuis 3 ans, même 4. Quand j'étais bénévole, je déléguais certaines parties, notamment tout ce qui était gestion des bénévoles et coordination de l'événement de manière générale. Et moi, j'organisais tout ce qui était relations presse et communication, c'était mon plus gros du travail, et fédérer les autres associations pour qu'elles viennent sur notre événement.
On en parlera un peu du partenariat associatif.
Et là, en tant que salarié, je délègue plus aucune partie. Je m'occupe de A à Z de l'événement, moins la relation presse, puisque du coup, il y a Adrien qui a rejoint la team Un déchet par jour, et il est bien meilleur que moi, donc du coup, cette partie est pour lui. Mais sinon, oui, je fais de A à Z toutes mes tâches, sans aide de personne.
Je trouve que ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir vraiment en vivre, parce que effectivement, quand on est dans l'association, on est beaucoup à être confronté un peu à la question du quel est l'équilibre financier que je vais réussir à trouver dans ma vie, entre d'un côté des aspirations nobles qu'on peut avoir pour la société, et puis de l'autre, il faut payer son loyer, il faut avoir suffisamment pour vivre. Et après, quels sont les équilibres qu'on trouve par rapport à ça? Là, tu nous expliquais que tu faisais du harcèlement téléphonique. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie. Hein. Peut-être que tu voudras nous en parler ou pas.
Mais, je peux vous en parler. Ne faites pas ce métier.
Je sais que, pour ce qui me concerne, par exemple, il y a eu un moment où j'ai été en dissonance, en fait, entre d'un côté un métier qui me faisait vivre, mais qui n'avait aucun... Enfin, voire même le sens absolument contraire de ce en quoi je croyais. Et puis, de l'autre côté, l'association, qui était une façon un peu de se rattraper. Mais si jamais on essaie de faire la somme des deux, c'était peut-être un engagement nul pour la société. Et là, tu as réussi à avoir un emploi grâce à ça. Ça me semble bien de pouvoir témoigner de cette cohérence qui est possible, finalement.
Je ne sais pas si c'était s'il y avait des cohérences, incohérences, mais comme tu dis, il faut se nourrir, il faut payer son loyer et on est obligé à un moment donné d'aller sur le marché du travail. Quand j'ai fini mon master, j'ai cherché pendant 8 mois du travail en communication environnementale. C'est un secteur qui est super bouché et même si j'avais des relations avec d'autres associations, j'étais tellement engagée chez Un déchet par jour que les autres associations ne voulaient pas forcément de moi parce que j'avais trop une identité marquée. Donc ça peut porter aussi préjudice. À un moment donné, il a fallu que je me résigne à trouver un travail ailleurs. J'ai envoyé un CV à l'arrache et une entreprise m'a appelé. Et du coup, je n'ai pas refusé parce que j'avais besoin d'argent. Je peux pas... Enfin, c'est compliqué de vivre sans argent. Donc j'ai fait ça. Et à côté de ça, je vivais aussi pour l'association en me disant que c'était... pour moi, c'était ce que j'avais envie de faire, en fait. J'avais envie de travailler pour cette association, de faire des choses bien pour la planète, en plus que ce que je fais moi quotidiennement, personnellement. Et je me suis donné les moyens d'y arriver. Je me levais le matin plus tôt pour pouvoir gérer les réseaux sociaux. Entre midi et deux, quand il y avait des gros événements, et ben, je prenais le temps de faire tout ce qui était relations presse. Le soir, je rentrais, soit je faisais mes réunions avec un déchet par jour, soit je retravaillais un petit peu la com, ou je ne faisais rien parce que des fois, on est fatigué. Mais,
Et ça pendant 4 ans ?
Et ça pendant 4 ans.
Waouh.
Enfin, bon, y a eu les études entre-temps, du coup, c'est notre organisation. Mais
des études en plus. Donc, tu vois, c'est un beau témoignage parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent voilà, qui aimeraient justement passer le cap. C'est pas évident. Et je pense que c'est important de découvrir ces différentes expériences. Quoi. Mmh.
Je pense que c'est la passion qui fait tout, puisque... Moi, c'est l'environnement, mais il y a des personnes, c'est le sport, d'autres, c'est l'art. Et je pense que toute personne qui est vraiment passionnée, qui aime faire certaines choses, se donne les moyens de le faire, quitte à faire des choses moins bien à côté, comme du harcèlement téléphonique. Je donne cet exemple-là, mais ça peut être d'autres travails moins bien, comme de la restauration. Enfin,
oui, pas la restauration. Ce sont des tremplins. Après, le tout, c'est d'y arriver avec de la détermination et puis de l'envie. Voilà, ça a du sens aussi pour la personne, donc je pense que finalement, même si c'était une charge de travail supplémentaire, peut-être que tu t'épanouissais plus au travers de ces missions-là, entre midi et deux, le matin, le soir, que lors de ton emploi de harcèlement téléphonique. Donc du coup, ça se complétait aussi quelque part.
Clairement.
Je profite de ce petit instant, parce que lors de l'introduction, je n'ai pas évoqué que les auditeurs pouvaient aussi interagir sur l'antenne. Donc n'hésitez pas à nous contacter au 04 91 08 28 10. Vous pouvez discuter avec Natacha, Marin et moi-même sur le sujet. Voilà.
Merci pour cette précision. Moi, j'aimerais pouvoir continuer sur une question toujours par rapport à ça. Là. Ça aussi, c'est important, je trouve, quand on est en asso. C'est quoi le modèle économique d'un déchet par jour pour pouvoir avoir des permanents ?
En fait, le modèle économique, c'est beaucoup de réponses à des appels à projets. Par exemple, on a répondu à un appel à projet qui nous permet en fait, de faire des sensibilisations dans les écoles. Donc du coup, par exemple, on intervient dans les écoles ne paient pas, mais c'est l'organisme qu'on a sollicité qui nous donne un financement pour faire ça. Et on a répondu à plusieurs types de financements pour pouvoir faire de la sensibilisation, des ramassages, etc. Et ça nous permet du coup de pouvoir avoir ces financements-là permettent d'avoir des employés, parce que sans employés, on peut pas... Par exemple, les sensibilisations dans les écoles, on a réussi à être régulier à partir du moment où on a pu avoir... Clémence avec nous. Mmh. Parce que quand on est bénévole, on travaille tous à côté et on n'est pas forcément disponible les jours de classe. Donc c'est ça le modèle économique. Et puis des contrats aidés aussi qui permettent en fait aux associations de ne pas payer les frais en fait.
Ok. Mais est-ce que avoir un président d'association punchy qui n'hésite pas visiblement à secouer cocotier dans une ville qui n'est pas la sienne, c'est un avantage ou un inconvénient quand il faut aller chercher des subventions publiques ?
Alors, à cette époque-là, on n'avait pas de subventions. Okay. On n'avait pas de subventions, c'était plutôt des partenariats. Et à cette époque-là, il n'y avait aucun salarié dans l'association. C'était plutôt des financements pour des projets. Par exemple, ça marche l'escargot anglais, donc il a fait en 2017. Donc, il faut savoir qu'il a parcouru 8000 km en stop et à pied à cette époque-là. Et c'est un financement d'une entreprise qui a permis en fait, de réaliser cette marche-là.
Donc là, c'était plutôt vous bénéficiez de fonds publics et privés par du mécénat, ce genre de choses. Vous travaillez avec des...
Et les team building aussi, quand on fait des interventions dans les entreprises, ça permet aussi d'avoir des petites sommes. C'est appel à projet, entreprise et mécénat.
Alors parce que là,
après, c'est pas trop ma partie, donc j'avoue que je peux pas répondre bien comme il faut à cette question.
Oh, mais pour l'instant, c'est très clair. Mais justement, en fait, j'avais vu sur votre site en préparant l'émission que vous aviez. Alors, il y a un certain nombre d'événements, mais on pourra peut-être en parler juste après. Vous avez un peu trois grands pôles, quoi. Organisation de ramassage, ensuite sensibilisation scolaire et périscolaire, et puis après, team building en entreprise.
Oui.
Et alors, moi, j'arrive à visualiser ce que c'est que de l'organisation de ramassage. Mais peut-être après, on pourra en parler peut-être plus en détail. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment est-ce que vous faites de la sensibilisation et comment est-ce que vous faites du team building ?
Alors... La sensibilisation, elle est quotidienne, puisque un déchet par jour, c'est le fait de ramasser un déchet par jour, de publier sur les réseaux sociaux le geste d'avoir ramassé un déchet et de taguer ses amis. Donc ça, rien que ça, c'est une première sensibilisation. C'est inciter les gens à ramasser un déchet par jour, parce que si tout le monde ramasse un déchet par jour, il n'y aura plus de déchets dans la rue, mais c'est aussi le message sous-entendu, arrêtez de jeter vos déchets par terre. La sensibilisation dans les écoles, du coup, donc c'est du démarchage. Il y a des écoles qui nous contactent, nous on les démarche et du coup on va à la rencontre des enfants, pas trop jeunes parce que c'est compliqué d'arriver à mettre en place vraiment un discours parlant pour des très jeunes enfants. Et du coup ça peut se faire sous forme de jeux, de vidéos qui ont été faites, notamment le Grand Saphir fait avec Manu, je ne sais pas si le Manu de Sauvage. Je vous invite à le regarder sur Imago TV qui est super, par la diffusion en fait d'images un peu parlantes, notamment dans certains pays on peut voir des enfants marcher, nager dans des tonnes de déchets ou d'aller sur des collines de déchets pour chercher des matériaux pour pouvoir les revendre, les revaloriser. Donc ça c'est des choses qui peuvent parler aux enfants, comme quoi réduire certains types de consommation, privilégier par exemple une gourde plutôt qu'une bouteille d'eau en plastique, c'est aussi être favorable à l'environnement. Bravo Marin, j'ai noté la gourde.
Il nous montre, vous ne voyez pas, mais il nous montre sa gourde, il en est très fier.
Oui, il peut. Enfin, des petites choses comme ça, aussi expliquer les éco-gestes aux enfants. Donc, ça passe donc, du coup, par l'utilisation d'une gourde plutôt qu'une bouteille en plastique. Peut-être acheter ses habits dans des friperies plutôt que d'aller chez Zara, des choses comme ça. Pour les entreprises, du coup, c'est plutôt une analyse de l'entreprise. Quel type d'entreprise c'est? Quel type de déchets il génère? Et du coup, on adapte la sensibilisation à l'entreprise en fonction de ce qu'elle fait. Et généralement, on termine souvent par un ramassage, que ce soit dans les écoles ou avec l'entreprise, pour que les personnes puissent se rendre compte en fait, de l'impact. Parce que finalement, des déchets, quand on en ramasse un, si on regarde bien attentivement, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, et on ne s'arrête jamais.
Donc finalement, avec les entreprises, vous faites à la fois du team building, mais aussi un peu du conseil en stratégie sur comment réduire les déchets.
Exactement. Et pour nous, c'est une réussite quand elles nous disent on a réussi à réduire tel déchet, comme par exemple la machine à café. Souvent, vous allez à la machine à café, il y a le petit gobelet qui tombe et puis vous prenez un deuxième café, un deuxième gobelet, etc. Et on peut considérer que c'est une réussite quand la personne elle nous dit « j'ai ramené ma tasse et je prends mon café ». Ou le midi, quand vous allez chercher à manger, plutôt que de prendre la barquette à emporter que vous allez jeter, amenez carrément votre tube pour mettre votre nourriture dedans. C'est des petits gestes comme ça au quotidien qui peuvent marcher. Et on est très content quand les entreprises elles reviennent sur nos ramassages. Et ça, on se dit « ça, c'est cool ».
Et ça, vous le retrouvez souvent. Donc, du coup, après un team building, l'idée, c'est de retrouver voilà, des entreprises qui reviennent lors de ramassage. Alors, après, ça peut être des personnes qui reviennent de façon individuelle, non ? Pas forcément.
C'est souvent, en fait, de manière individuelle. Et des fois, les petites entreprises reviennent de manière groupée. Mais les grandes, c'est plutôt la sortie familiale. Puisque même dans le cadre d'opérations de team building, quand on organise les ramassages, parfois ce n'est pas le même jour où on a effectué la sensibilisation. Et les personnes viennent des fois avec leurs enfants. Et du coup, ils se rendent compte que les enfants adorent les ramassages. Et donc du coup, ça les incite à participer à d'autres ramassages avec leurs enfants. Et ça, c'est trop chouette.
Mmh. J'en faisais aussi quand j'étais petite du ramassage. Mais sur les entreprises, toujours c'est les entreprises. En gros, vous vous attaquez aux déchets individuels. Genre, t'as pris une bouteille d'eau plutôt qu'une gourde. Un gobelet en carton ou en plastique plutôt qu'un mug. Ou est-ce que vous allez aussi réfléchir sur le déchet industriel, sur l'emballage qu'ils peuvent utiliser pour vendre X ou Y produit, sur le fait d'avoir fait venir de super loin avec des produits pas forcément. Qui pourrait être plus concis en termes d'emploi de matériaux. Où est-ce que vous agissez?
Alors, ça dépend. Parce qu'il y a des entreprises qui cherchent des solutions. Nous, on peut en donner, mais après, c'est rarement applicable. Il y a fort longtemps, on avait fait une sensibilisation avec Haribo. Et du coup, on leur demandait, mais arrêtez avec vos emballages individuels, vendez que des grandes boîtes en ferraille, etc. Et elles nous disaient que c'était pas possible, qu'effectivement, elles cherchaient un modèle économique pour réduire en fait, l'impact de ces petits déchets, finalement. Mais ils trouvent pas de solution. Et c'est vrai que nous, on a peut-être pas. enfin, on n'a peut-être pas assez connaissance en fait de comment marche ce genre d'entreprise pour pouvoir vraiment leur proposer des solutions durables pour réduire, à part vendre en gros et arrêter en gros, en vrac, et arrêter de faire en individuel. Mais les entreprises internationales comme ça, je pense que Haribo, ben, et à Marseille, je pense que sur Marseille, ils ont envie de réduire en fait cet impact-là, mais ça dépend pas forcément de.
Ouais. Après, c'est vrai que le team building, bon, pour en avoir fait, c'est plutôt, on va dire, une démarche d'animation, pour fédérer, pour retrouver le groupe, etc. Donc, c'est bien que ce soit autour de sujets de sensibilisation. Mais c'est vrai qu'à part si vous êtes en soi accompagné par un consultant expert dans, je sais pas, la blockchain ou ce genre de choses... En effet, alors à moins que vous ayez, vous, en interne, des experts vraiment spécialisés pour travailler dessus. Mais je pense que c'est déjà un premier état des lieux de ce que chacun peut faire au quotidien en tant que collaborateur, non ?
C'est plutôt ça. C'est déjà pas mal, en fait, si l'entreprise restera toujours polluante. Mais si déjà, au sein de l'entreprise, on arrive à sensibiliser des personnes qui, eux, jetaient leurs déchets par terre ou qui étaient des grands consommateurs de bouteilles en plastique, par exemple, et qu'on arrive à leur faire réduire, en fait, leur consommation de plastique de manière générale et peut-être à consommer différemment, c'est déjà une réussite. Parce qu'effectivement, nous seuls, on ne va pas arriver à changer le monde. Il y a des lobbyistes qui sont là aussi pour ça, pour arriver à faire pression sur les entreprises et changer leur comportement.
Dans ma vie d'avant, j'ai travaillé pas très longtemps, parce que j'ai démissionné, mais dans une grande entreprise en tant que lobbyiste en plus, dont le but était de vendre des bouteilles d'eau. Voilà, et des yaourts, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Mais sache que j'étais parti. Justement, toi, tout à l'heure, quand tu disais que tu faisais du harcèlement téléphonique, moi, j'étais lobbyiste pour vendre des bouteilles d'eau, et je suis resté 3 mois, puis après, j'étais parti.
Bravo.
Mais est-ce que, du coup, question relativement politiquement correcte avant de faire la pause juste après, est-ce que parfois, sans peut-être les nommer expressément, vous invitez à ne pas... consommer chez telle ou telle compagnie, de dire bon là il peut y avoir du déchet superflu parce qu'il y a un plastique qui enrobe un autre plastique qui peut encore enrober un autre plastique, par exemple des magnifiques gâteaux au chocolat croustillant un petit peu avec de la noisette, si certains peuvent les reconnaître.
Tu as faim toi.
Est-ce que par exemple vous leur dites bah là c'est pas la peine, ou alors des trucs avec des pailles en plastique qui se jettent après, dire bon bah peut-être qu'il faut mieux consommer autre chose?
Ben oui. Je peux dire ces noms. Est-ce que j'ai le droit de dire des noms comme ça à la radio ou pas du tout ?
C'est toi qui vois, hein, nous, il n'y a pas de souci.
Je sais que pendant longtemps, on a traqué Capri Sun, parce que déjà, c'est un déchet qu'on retrouve partout. Partout, partout. Déjà, on se demande comment les gens font pour boire ça, parce que c'est clairement dégueulasse. Pourquoi ils jettent comme ça dans la rue ? Et surtout, les pailles en plastique sont censées être interdites. Alors, je crois que là, maintenant, elles sont en carton, mais la problématique est la même. Avant que ça se dégrade... Ça fait son petit chemin dans le nez des tortues. Donc oui, on les a tagués au point qu'ils nous ont... par exemple, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, on ne peut plus les taguer parce qu'ils en ont eu marre de nous. Après, par exemple, pour Halloween, on avait fait un petit post. Faites du bien à la planète. Quand on vient taper chez vous, prenez un sort plutôt qu'un bonbon. Puisque les bonbons sont dans des emballages individuels et que ça génère énormément de déchets. Donc c'est des petits trucs... des petites choses comme ça. Après, effectivement, on prône aussi un peu le zéro déchet, de consommer différemment, notamment aller dans les magasins de vrac, faites vos gâteaux vous-même, aller dans les friperies, reconditionner vos téléphones, même si je suis très mal placée pour ça, mais reconditionner votre téléphone, c'est mieux que d'en acheter un neuf tous les 6 mois. Je n'achète pas un téléphone tous les 6 mois, attention. Je l'utilise jusqu'à la fin, mais après j'en achète un nouveau. Mais c'est plutôt réduire sa consommation au maximum.
Mais ceci dit, ça, voilà, cette petite conclusion avant la courte pause musicale, je trouve que là, ton emploi justement en communication fait tout son sens, et c'est là où on voit l'importance de toute façon de la communication, de communiquer autour d'eux, et en fait communiquer, c'est sensibiliser, quoi.
Exactement.
Et donc là-dessus, l'association le fait beaucoup, et ça peut avoir un gros impact.
J'espère que ça a un gros impact. Même un petit, c'est déjà une réussite.
C'est vrai.
C'est les mentalités qui bougent. Je te propose de nous introduire la pause musicale que tu as choisie. On parlera de tout ce dont on parle là juste après. Et là, comme d'habitude, en fait, on a un petit moment de détente. Donc,
tu viendras nous l'expliquer après.
Voilà.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
la chose qui vient est dédicacée à l'homme qu'on appelle Mickey San. Tactical Crew, Montpellier Posse, Black Ops Studio, Bobby G. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat. Je t'ai dit de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Je vois passer devant chez moi dans le ruisseau des mètres cubes d'eau, de l'eau potable qui s'en va dans les égouts, dont les trois quarts au moins ne servent à rien du tout. Pourtant on nous dit que ça coûte des sous, il y a de quoi se demander si on n'est pas devenu fou. Je vois d'ici qu'on va encore me traiter d'écolo, mais avant ça cousin je viens t'expliquer le topo. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat, de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas facile de parler d'un tel sujet, a priori il s'agit de banalité. Mais quand soudain j'ai réalisé le danger, je me suis aperçu que ça le méritait. À cause de l'eau on voit partout, et oui sur la terre, se déclarer des conflits, se déclencher des guerres, pour quelques sources ou bien pour un bout de rivière. Et pour des peuples entiers la vie devient un double enfer. Ma revendication est simple, elle est très claire, alors encore une fois cousin je la réitère. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat. Je t'ai dit de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Il faut prendre au sérieux les scientifiques quand ils nous disent que la situation est critique. Depuis plus de 100 ans, les progrès technologiques ont permis de réaliser des choses magnifiques. Mais dans le même temps, pour gagner toujours plus de fric, on fait n'importe quoi, le bilan est catastrophique. On installe n'importe où des usines chimiques, on pollue à tour de bras les nappes phréatiques. Je t'épargne les détails, tu connais la musique. Je me contente de t'expliquer quelle la problématique. Je me contente de rappeler que l'eau est un trésor unique, il faut le protéger et de nouveau je revendique. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat. Je t'ai dit de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Après leur vert, leur noir, leur blanc, on nous parle de leur bleu. Certains d'entre nous en ont trop et certains autres en ont trop peu. Cela fait trop de mécontents, cela fait trop de malheureux. Si ça dure encore longtemps, l'avenir sera désastreux. L'eau de tous les éléments est celui qui me plaît le mieux. J'aime me placer dedans, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Il me faut de l'eau pour mon pastaga, de l'eau pour mon poisson et mon chat. Je t'ai dit de l'eau pour arroser ma ganja, de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Il me faut de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Il me faut de l'eau pour tous ceux qui n'en ont pas. Il me faut de l'eau. Hey, hey, hey. Il me faut de l'eau. On va garder la partie. Il me faut de l'eau. Et bien soda. Duragamo fin de la plaza, un pagari pa ver en que se desplazo. Mickey San, fin de la plaza, Bertrand, Bernard, Ayoli, Chopia, Rubini, Marcio.
Nous sommes de retour sur Radio Galère 88.4. La semaine dernière, je m'étais trompé. Et toujours avec Natacha qui nous présente un déchet par jour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Natacha, parce qu'on ne l'a même pas expliqué avant le début de l'émission, ce qu'on vient d'écouter?
Alors, j'ai choisi cette chanson de Papi G qui parle donc de l'eau qui se fait de plus en plus rare. Donc, elle se fait de plus en plus rare à cause du réchauffement climatique, mais aussi à cause de la production de bouteilles. Il faut savoir que, donc, du coup, on accuse toujours Coca-Cola, en fait, d'être la première firme de pollution plastique et de production de bouteilles. Mais il faut savoir que sur les 6 millions de bouteilles qui sont vendues chaque jour, il y a 40%, ce sont des bouteilles d'eau. Et que pour fabriquer une bouteille d'eau d'un litre, il faut utiliser 3 litres d'eau. Donc, ça n'a pas du tout de sens. Et si vous n'arrivez pas à imaginer ce que c'est que 40% de bouteilles d'eau sur 6 millions, ça représente 4 fois le stade de France. Voilà, donc imaginez le nombre de litres d'eau qui sont gaspillés en fait pour la fabrication de bouteilles d'eau en plastique. Mmh. Voilà, à méditer.
Marche sur la tête, ouais.
Surtout que ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que quand on vend des bouteilles d'eau, on est aussi une entreprise de la pétrochimie, parce qu'il faut bien le fabriquer quelque part, ce plastique. Mmh. Et c'est souvent quelque chose qui est un petit peu mis de côté.
Exactement. Les bouteilles d'eau sont faites à partir de pétrole, et en plus, on dit, oui, je peux réutiliser une bouteille d'eau autant de fois que je veux, mais pas du tout. En fait, une bouteille en plastique, elle est utilisable une fois, et à partir de la seconde fois, en fait, il commence à y avoir des petits microbes qui se créent à l'intérieur, et du coup, c'est pas du tout sain, ni pour le corps, ni pour l'environnement. Et même les firmes qui disent, oui, on fait du plastique recyclé, le plastique ne se recycle pas à l'infini, donc c'est qu'une solution à courte durée.
Donc un geste simple, conclusion de l'histoire, un geste simple, prenez une gourde s'il vous plaît. Et c'est juste un petit geste, voilà, si on ne veut pas faire grand chose pour l'environnement, au moins prendre une bouteille.
Je salue mes anciens patrons qui écouteront cette émission.
Bon bah du coup on parlait des team building que vous organisez. Et on avait aussi donc, les sensibilisations dans les écoles. Et donc, je trouvais que c'était intéressant, justement, le fait que les enfants aiment bien ramasser. Alors, par contre, du coup, les sensibilisations, c'est quoi ? Minimum d'âge CP ?
Alors, c'est pas moi qui vais dans les écoles. Donc, c'est vrai que c'est pas une partie... Comme je viens juste d'être salariée et en tant que bénévole, il y a des choses que je ne pouvais pas... Enfin, dont je ne m'occupais pas du tout. Je pense que c'est à partir de la primaire et j'aurais tendance à dire à partir de 7 ans, 8 ans. Mais j'en suis pas certaine. Je sais que les maternelles, la dernière fois, on en discutait et on me disait que s'ils étaient vraiment trop jeunes et que c'était un peu compliqué. Mais du coup, je sais qu'on fait plus en fait 7, 8 ans, collège, lycée et fac.
Parce que moi, sur des événements, j'ai vu beaucoup d'enfants tout petits qui adorent et qui sont très sensibles. Même mon neveu, il avait fait des sensibilisations avec la collectivité où il habite, quoi. Et il avait peut-être 2-3 ans et c'était impressionnant le retour, quoi. Un tout petit bout de chou qui peut te sensibiliser sur l'utilisation justement des pailles et du plastique. Et tu te dis, mais en fait, même tout petit, les enfants sont sensibles. Et donc, moi, je pense qu'il faut même sensibiliser à maternelle. Après, en termes de logistique, ça risque d'être compliqué.
En fait, ce qui est compliqué avec les enfants, parce qu'à une époque, j'ai été animatrice, les petits de cet âge-là, ils ont 20 minutes d'attention. Donc, en 20 minutes, il faut arriver à faire passer un message. Et après, on les fait passer du coup. Enfin, on fait passer le message, on peut le faire qu'une fois. Donc, peut-être que 20 minutes, c'est trop court, même si on fait des ateliers avec. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué en termes de moyens. Et après, quand on fait le ramassage, je pense qu'au niveau de l'encadrement, est peut-être plus compliqué aussi avec cette tranche d'âge-là.
Oui, ça s'entend.
Ce sont des petites graines qui sont semées dans les esprits et qui germent avec le temps. Sachant qu'en plus, la question des déchets, c'est... C'est peut-être une des façons les plus simples de matérialiser les questions de l'impact de l'homme sur l'environnement. Parce qu'il y a des choses qui sont tout aussi dramatiques, qui relèvent plus du système, entre guillemets, avec des effondrements de biodiversité, ou même tout simplement, par exemple, le Gulf Stream qui va s'arrêter de tourner. C'est énorme, mais on peut ne pas voir tous les jours ce que ça peut impliquer pour nos vies. Alors qu'un déchet, ça permet vraiment de montrer factuellement, t'as vu, bah regarde, un mégot, une bouteille en plastique, un truc Capri Sun, je sais pas, un bout de carton, la fin d'un kebab dans la rue, c'est concret, quoi.
Oui, et puis on peut même les amener autour de leur école, en fait, et voir les déchets qu'ils y trouvent, en fait, pour avoir participé à des sensibilisations il y a un moment autour des lycées. C'est fou ce que les adolescents peuvent jeter. Et souvent, en fait, les écoles sont à proximité des unes et des autres. Et il y en a énormément. Après, quoi dire de plus ? Oui, c'est complètement concret. Et je le disais déjà tout à l'heure, en fait, quand on incite, nous, à ramasser un déchet, mais c'est difficile de se cantonner à un déchet.
Mmh. Et moi, j'ai quand même une question. Parce que on est... Alors, je dois faire une confidence pour nos auditeurs et nos auditrices. Je ne suis pas Marseillais de base. Je suis arrivé ici, j'ai choisi cette ville. J'aime bien le préciser, il y a des choses qu'on choisit et d'autres qu'on ne choisit pas. Mais c'est quand même une ville assez particulière sur le rapport aux déchets. Je veux dire, les grèves des boueurs, ça ne se trouve pas partout. La question de... Enfin, il y a un rapport comme ça avec avec ce qu'on peut consommer et puis jeter qui se trouve pas dans toutes les villes. Est-ce que pour vous c'est un challenge? Est-ce que c'est désespérant? Là récemment il y a eu encore des grèves qui ont fait qu'on avait des amas de poubelles énormes. Qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça?
Alors moi, juste moi, pas l'association, ça m'énerve. Mais ça m'énerve de fou parce que je me dis pourquoi ils font des grèves tout le temps sur ces déchets alors que c'est une source qui est polluante. C'est sanitairement parlant, c'est genre juste pas concevable. Et ok pour le droit de grève, ok pour se faire entendre, mais et je répète, c'est pas l'association qui parle, c'est Natacha. Je comprends pas en fait avec tous les avantages qu'ont ces personnes, malgré le fait que leur boulot est compliqué, ils se mettent en grève tout le temps pour avoir plus, travailler mieux, et ensuite on parlera des grèves. Ça, ce n'est que mon dilemme. En termes associatifs, nous, ce qu'on se dit, c'est que sur Marseille, de manière générale, en fait, il y a quelque chose à faire en termes de réduction des déchets. C'est si on doit parler de recyclage, la moyenne nationale est de 40% de recyclage. Les ménages recyclent, c'est 40%. À Marseille, on est sur une moyenne de 20%. Donc rien qu'au niveau du recyclage, il y a toute une éducation à faire. Donc du coup, on essaie de travailler avec des entreprises partenaires comme Veolia, par exemple, pour essayer d'inciter notamment sur nos ramassages. On fait du tri et comme ça, on se dit qu'on peut apprendre, informer les personnes qui viennent sur nos ramassages à comment trier leurs déchets. Déjà, ça peut être une première solution. Après, il y a un deuxième message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours consommer... d'être dans la consommation, je ne sais pas comment dire ça, on n'est pas obligé.
Surconsommation même.
On n'est pas obligé d'être dans la surconsommation, on n'est pas obligé d'aller toutes les semaines faire 300 € de courses chez Carrefour. On peut aussi aller dans des entreprises qui font du vrac. Je pense à Naturalia, là, comme ça, mais il y a aussi le bar à vrac qui est en haut de la Canebière, des petites structures comme ça, ou Super Cafouche, qui permettent d'avoir une consommation plus raisonnable et responsable, et du coup de réduire ces déchets déjà là. Donc si l'ensemble des Marseillais arrivent à réduire leurs propres déchets, les poubelles seraient moins pleines et peut-être que les grèves auraient moins d'impact sur l'environnement.
Oui, puis au-delà de... Bon, c'est vrai qu'on en revient toujours au même sujet quand on invite des associations, c'est aussi l'accès. Je pense que ça, c'est un grand sujet et j'espère que ça évoluera aussi dans ce sens, mais c'est l'accès à une nourriture saine, au bien manger. Et pour l'instant, je ne suis pas sûre que ce soit accessible à tous en termes de revenus. Par exemple, l'électricité a énormément augmenté. Il y a des choses et justement, l'environnement, en fait, on ne se rend pas compte, même au niveau politique, ça, tout ça, c'est lié. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais je ne vais pas aller sur ce sujet-là. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà, donc oui, dans la surconsommation, c'est qu'au-delà de l'alimentaire, acheter de la viande, les matières premières, etc., c'est... Comme tu l'as dit, par rapport à toutes ces bouteilles en plastique, c'est que souvent, quand on va dans des hypermarchés, en général, on retrouve dans les caddies des choses qui sont loin d'être essentielles au bien vivre.
Exactement.
Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça aussi qu'on peut... Voilà, je pense qu'avec, c'est de l'éducation aussi, c'est de savoir l'impact que ça a, finalement, ces choses qui sont pas saines pour soi et pas saines pour l'environnement. Je pense que ça peut se réduire et ça c'est forcément dû... à un moment donné, il faut aussi être sensibilisé et éduqué à ça. Après, pour le vrac, ça se discute encore parce que malheureusement, c'est de plus en plus accessible, mais ça reste coûteux et je pense que là, il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là pour que ce soit plus accessible. Mais en effet, les déchets, c'est très problématique à Marseille, Marin.
On pourrait rentrer dans la discussion coûteux. Je pense que ce n'est pas forcément le sujet, parce qu'on peut aussi très bien dire que c'est moins coûteux, parce que ça, c'est une santé qui est préservée. Donc, en termes d'accès aux soins, derrière, c'est moins coûteux. Il peut y avoir aussi, par exemple, quand on décide de réduire sa consommation de viande pour acheter des produits... végétaux de meilleure qualité, ça permet d'avoir...
Je suis une convaincue.
Un équilibre qui peut être pas forcément plus coûteux économiquement.
Mais c'est aussi coûteux mentalement. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces questions-là,
oui, ça, ouais,
elles se posent, ça prend du temps. Et ce que je veux dire, c'est que je replace toujours, même si, du haut de ma petite personne, toute seule, sans enfant, j'essaye de faire attention. Et voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que quand on est issu d'une famille nombreuse avec de petits moyens, c'est aussi voilà, facile quand on est jeune de dire ce genre de choses. Après, dans les faits, ça peut être un peu plus compliqué.
Ça, c'est
et
sûr.
Je trouve que c'est bien de toujours de le replacer, quoi.
Pour le coup, c'est sûr que quand il y a une famille et qu'on est plus nombreux, comment est-ce qu'on stocke tout ça, c'est une autre question. Mais là, j'aimerais pouvoir aborder peut-être encore un autre volet. Tout à l'heure, on parlait de la culture de cette ville qui a aussi de formidables atouts, qui sont d'avoir une certaine passion, un amour de sa ville, parfois un amour du quartier dans lequel on est. Est-ce que ça vous arrive parfois d'organiser un peu sous le volet du jeu des grands ateliers, des grands événements d'organisation et peut-être de mettre en concurrence des quartiers ou de vouloir un petit peu organiser quelque chose qui soit ludique pour le nettoyage.
Alors, on n'a jamais mis en concurrence, nous, les quartiers. Par contre, il y a eu le... Comment ça s'appelait le... Ah, c'était le challenge... Ma cité va briller. Mmh. Du coup, c'est un mouvement qui était parti de Paris, où en fait les cités, les habitants de certaines cités en fait nettoyaient leur quartier et lançaient en fait le défi à une autre cité de faire la même chose. Et c'est parti de Paris, ça arrivait à Marseille et de Marseille ça allait à Toulon et ça fait un peu toute la France de cette manière-là. Et du coup, nous, on a été sollicités en fait pour accompagner notamment Félix Piat à participer à ce challenge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cités, un déchet par jour, on n'arrive pas dans la cité et dire on va organiser le ramassage parce que c'est pas concevable que ça se passe comme ça. On a été vraiment accompagnateurs parce qu'il y a déjà d'autres associations qui sont là, qui connaissent les jeunes, les moins jeunes de la cité. Et c'est eux qui doivent faire, ils veulent faire, ils en ont envie. Donc du coup, on a plutôt accompagné en fait ce genre de challenge intercité, j'ai envie de dire, ouais, au niveau national. Mais on n'a jamais mis en concurrence les quartiers parce que je crois que Marseille a besoin plutôt de fédérer, en fait, plus que de mettre en concurrence.
Non, ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que le quartier de Félix Piat, j'y étais l'année dernière en intervention au service civique, notamment sur les questions de ramassage de déchets. Et c'est sûr qu'après, il y a aussi vraiment s'appuyer sur les gens qui connaissent,
qui sont ancrés
sur le territoire. Et qui connaissent mieux leur quartier que quand on arrive de l'extérieur, qu'on dit « Salut, en fait, il faut faire ci, ça, ça, ça. »
Clairement.
Et puis, il paraît que c'est quand même difficile de rentrer dans certains quartiers et que, voilà, le fait de s'appuyer, que vous, peut-être que vous amorcez une dynamique, mais c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas en capacité de, rentrer directement dans le quartier pour dire un petit peu quoi faire, quoi.
Non,
clairement. Je pense que
pas.
C'est très particulier, le tissu autour des quartiers... à Marseille, il y a des choses, et je pense qu'il faut passer par des entrées par des associations ou des acteurs très, très ancrés sur le territoire. Je suis pas sûre qu'on y rentre comme ça, quoi.
C'est ça, c'est plutôt vraiment de l'accompagnement et de la collaboration. Mais certainement pas tirer la couverture pour dire on l'a fait. Et notre but à nous aussi, c'est de pouvoir apprendre à tout le monde, en fait, de pouvoir organiser son propre ramassage et de pouvoir organiser des grosses opérations comme nous, on arrive à le faire, en fait. Parce que finalement, au plus de personnes arrivent à organiser ce genre de ramassage, au plus on a la chance de sensibiliser, en fait, des personnes qui n'étaient pas touchées à l'origine et de pouvoir rendre la ville plus propre.
Et vous avez des indicateurs là-dessus, justement, de personnes qui sont touchées, qui ont été sensibilisées, qui ne l'étaient pas à un moment donné. Enfin, vous arrivez à avoir à identifier tout ça?
Ce que je peux dire, parce que du coup, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir mes chiffres devant moi, là je ne les ai pas, mais ce que je peux constater, c'est que quand je suis rentrée dans l'association en 2017, le fait de ramasser un déchet par jour était quelque chose qui était très très rare. Les ramassages organisés sur Marseille n'étaient pas forcément valorisés, puisqu'il y en avait déjà avant un déchet par jour. On peut parler de Surfrider qui avait lancé les opérations, les initiatives océanes. Nous, je sais qu'on a réussi à fédérer en fait ce mouvement de ramassage et de le démocratiser, en tout cas dans la ville de Marseille, peut-être au niveau national si on a envie de se dire c'est nous, mais c'est pas nous. Enfin, il y a d'autres associations finalement qui ont été impulsées via ce mouvement-là. Et quand je vois le nombre d'associations qu'on est aujourd'hui à Marseille pour organiser des ramassages, que ce soit en activité principale ou secondaire, ou le nombre de demandes qu'on a pour sensibiliser dans les écoles, on peut se dire que ça a bien augmenté, en fait. Ça n'a plus rien à voir. Là, on est en 2022, donc depuis 5 ans, c'est la demande a clairement augmenté.
Est-ce que tu peux nous décrire justement le process même d'un ramassage des déchets, donc du tout début, voilà, si on s'inscrit, comment on s'inscrit à un ramassage des déchets, et puis voilà, comment ça se passe, quoi, pour une personne qui ne l'a jamais fait, par exemple.
Alors, pour une personne qui ne l'a jamais fait et qui est tout seul et qui commence à ramasser tout seul, simplement, elle prend un sac poubelle de chez elle, une paire de gants si elle en a envie. Une paire de gants de jardinage, hein, ça le fait très bien. Et puis elle va dans la rue, sur un bord de plage, dans un parc. Et puis elle fait comme si elle allait faire ses lacets, sauf qu'elle ramasse un déchet. Elle fait des squats. Voilà. Tout simplement. Après, non, de manière plus sérieuse, pour participer à un ramassage, et peu importe quel type de ramassage, que ça soit celui d'un déchet par jour, des Wings ou de Clean My Calanque, peu importe, il y a juste à se renseigner sur la date et de venir. La petite préférence, c'est de venir avec ses propres gants, parce que effectivement, nous, on fournit les gants, les sacs, les pinces si c'est nécessaire, mais les gants, c'est vraiment trop chiant. Voilà. Ayez votre propre paire de gants, c'est déjà un bon truc.
Alors, moi, il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'ai deux grosses questions.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, du coup, je vais te les poser les deux et tu décideras de répondre peut-être à celle qui t'inspire. La première, c'est quand on parle du déchet, qu'est-ce qu'il devient après ? Est-ce que vous, ensuite, vous mettez ça dans les bennes et puis c'est pas vous qui vous en occupez ? Ou est-ce que, par exemple, vous pouvez organiser du circuit court et que le déchet puisse être réintroduit pour ensuite servir de matériaux pour de la reproduction, etc. Donc ça, c'est ma première grosse question. Il nous reste que 5 minutes. Et la deuxième grosse question, que tu pourras choisir de répondre ou non, c'est une question que j'aime bien poser à nos invités. C'est ta carte blanche. Qu'est-ce que tu fais pour que Marseille soit propre ? C'est toi qui décides, c'est toi qui es aux commandes. Qu'est-ce que tu proposes de solutions concrètes ou loufoques, hein, pour qu'ils puissent être un peu inspirantes pour celles et ceux qui nous écoutent ?
Me transformer en Mary Poppins. Non, sinon, je vais répondre plutôt à la première question. Donc, chez Un Déchet par Jour, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de revaloriser donc, certains types de déchets en partenariat avec des associations, et d'autres, on les donne directement à Veolia qui s'occupe du coup en circuit court de les recycler. Du coup, par exemple, tous les ramassages de mégots, on va les donner à l'association Recyclope qui, elle, va les transformer en énergie. Tout ce qui est bouchons, masques, bidons plastiques, on va les donner à Sauvage, qui est une nouvelle start-up qui, elle, en fait, va revaloriser ses déchets en bijoux. Il y a les canettes qu'on va donner à Canette Partage qui, elle, se charge en fait de les... Je crois qu'elle les revend pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour des fauteuils roulants, il me semble. Je crois que c'est quelque chose comme ça qu'ils font, Canette Partage, mais c'est super. Et voilà, du coup, oui, on essaie en fait au maximum en fait, de revaloriser certains types de déchets avec des associations partenaires ou entreprises partenaires comme Sauvage. Et après, le reste, on le donne à Veolia. Et tout ce qui n'est pas valorisable, et ben, on va le donner à la métropole, puisque... elle en est là.
Super. Non, c'est chouette justement de pouvoir revaloriser ces déchets-là. Et c'est une super question, Marin. Moi, justement, ce que je voulais savoir en termes de logistique, c'est pas trop lourd de réussir à diviser tous les déchets et se dire, voilà, c'est une logistique supplémentaire. Donc, chapeau à l'association. Comment vous faites ? Vous les stockez
Alors déjà sur les ramassages, il faut les trier. Alors
sur des directement sur les ramassages,
on est d'accord. Obligé, on peut pas ramener tous les déchets chez nous pour les trier. Donc sur les petits ramassages, eh ben on va trier, directement et ça se passe très bien et on va du coup faire le tri comme on le ferait chacun chez soi et juste mettre de côté les déchets qu'on peut revaloriser. Par contre sur des ramassages comme le Loft à Bonne Mère qui a lieu chaque année aux alentours de la Saint-Valentin, on fait appel à l'association Mère Terre qui elle spécialisée dans la caractérisation de déchets. Et du coup, elle vient sur l'opération. Et du coup, là, on va vraiment quantifier tous les types de déchets qu'on trouve. Là, cette année, on a compté aussi les marques qu'on a trouvées pour pouvoir ensuite avoir une base de données. Enfin, ils cherchent à avoir une base de données suffisamment solide pour pouvoir ensuite faire pression sur les marques pour leur dire, voilà, c'est pas normal qu'à cet endroit, il y ait une concentration, par exemple, de bouteilles de Coca ou de Heineken ou... etc.
Merci. J'aurais bien voulu te poser encore plein de questions. Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et c'est aussi l'occasion pour toi de pouvoir un peu peut-être parler d'événements vraiment concrets sur lesquels les auditeurs et les auditrices peuvent, si jamais ça les intéresse, venir vous rejoindre. Est-ce que voilà, tu peux parler de tes réseaux sociaux, des futurs grands ramassages que vous organisez pour qu'on l'espère puisse être le plus nombreux possible?
Alors déjà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un déchet par jour avec le chiffre 1. On est sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et on essaie TikTok, mais c'est vraiment galère. Et du coup, notre prochain ramassage, c'est le 20 mars au 99 boulevard Michelet pour l'Uvonne propre. Et vous pouvez organiser vous-même votre propre ramassage du 27 avril au 1er mai dans le cadre du TARP Improp. Le but est de réunir plus de 3100 personnes, qui était notre chiffre de l'année dernière, à organiser des ramassages dans tout Marseille. Voilà. Je pense que c'est les dates les plus importantes à retenir. 20 mars et du 27 avril au 1er mai.
Super. Merci, Natacha.
Merci à tous les deux.
Bah, merci beaucoup. Effectivement, je pense que là, on a fait un tour assez complet, j'espère en tout cas, de cette superbe initiative. On rend l'antenne. Un très grand merci. Et puis, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci.
À la semaine prochaine.